Et c'est l'heure des titres de l'actualité de ce lundi 1er avril avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Géraldine. Les élections municipales organisées hier en Turquie ont viré à la débâcle pour le parti au pouvoir AKP, plus encore pour le président Erdogan. Pour autant, faut-il y voir le début d'un possible changement dans le paysage politique extrêmement divisé? Nous serons en direct dès le début du journal à Istanbul. Et puis on posera la question à notre invitée aujourd'hui, Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI. On se rendra également à Jérusalem après que l'armée israélienne a annoncé ce matin le retrait de ses soldats de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Ce matin, des centaines d'habitants ont déjà afflué pour constater sur place les dégâts causés dans et autour de l'établissement. Toujours à l'étranger, on reviendra sur la légalisation depuis ce matin du cannabis pour un usage récréatif en Allemagne, une quasi-exception dans le monde. L'occasion aussi de s'interroger sur la stratégie de prohibition en vigueur en France. Enfin, depuis que Gabriel Attal a annoncé une possible nouvelle réforme de l'assurance chômage, plusieurs commence à s'élever contre ce projet, y compris, on le verra, dans le camp présidentiel.
Merci Thomas, on vous retrouve à midi et demi dans le journal de la rédaction.
Les midis de culture, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux recueils composés par deux poétesses. L'une est américaine et s'est immergée dans les méandres de sa mémoire, de l'Amérique rurale au punk et à l'épidémie de sida. C'est Diane Seuss avec son recueil Franck Sonnet. L'autre est française et a vécu simultanément la maternité et la perte d'un proche. C'est Blandine Merle pour son recueil Naître et mourir.
Et pour en débattre ce midi, nous accueillons Anne Dugin. Bonjour Anne.
Bonjour.
Rédactrice en chef de la revue Esprit. Face à vous, Sarah Almatari. Bonjour Sarah.
Bonjour. Bonjour.
Maîtresse de conférences en littérature à l'Université Lyon 2, membre de l'Institut universitaire de France et du laboratoire IRIM, soyez toutes les deux les bienvenues dans les Midis de Culture.
Et on commence avec Diane Seuss, Franck Sonnet, prix Pulitzer de la poésie.
J'aurais dû faire du cinéma. J'aurais dû peindre ou fonder un groupe. Je ne suis sûre de rien, dit le tatouage. Où est la maison, grattaient les poulets. J'aurais dû rencontrer les Stones quand j'en ai eu l'occasion. Les Sekis me retournaient comme une crêpe. Et alors, si je finis morte ou folle? Je suis grande, mais cette sensation l'est encore plus, chuchotait le silo. Je suis un écran de cinéma, disait le pâturage d'une voix traînante. J'aurais dû garder le bébé. Et alors, si je suis pauvre?
Please allow me to introduce myself. I'm May, Will, and Chase. I've been around.
Et Diane Seuss de continuer tout ce qu'elle aurait pu faire. Aimer un petit punk à la face de renard, emprunter une voix radicale, être pom-pom girl, épouser Chuck. Mais non, Diane Seuss qui a grandi entourée d'agneaux dans le Michigan, qui a perdu son père à 10 ans, est partie à New York et elle est devenue poétesse. Elle a traîné avec Lou Reed, Basquiat et Warhol, des chiens, dit-elle, cherchant un truc sur lequel pisser. Elle a avorté, eu un fils drogué, perdu un ami du sida. Et elle lit aujourd'hui les carnets de Tchekhov. Notable, mais fade, dit-elle encore. Pour se replonger dans cette mémoire floue, ininterrompue et spontanée, Diane Seuss a choisi la forme si classique du sonnet, 14 vers, 2 quatrains, 2 tercets, de quoi canaliser le jet puissant des souvenirs. L'effet est pourtant là, avec ses 127 poèmes, on a bien l'impression d'être inondé par ses impressions et ses traumas. Qu'avez-vous pensé de ce recueil, récompensé du prix Pulitzer, Anne Dugin?
Alors, j'avoue que j'étais pas complètement enthousiaste à l'idée de me plonger dedans, parce que je crois que je me lasse un petit peu de ce que je perçois comme une sensibilité très à la mode, très représentée d'ailleurs dans cette belle maison d'édition, pardon, qui est le Castor Astral, c'est-à-dire une écriture du trauma, pour le dire vite, souvent portée par des voix féminines, d'ailleurs, qui tisse le poème autour de la douleur existentielle et qui se déploie dans cette évocation, dans une langue qui recherche le conversationnel, qui recherche le trivial, qui recherche parfois un petit peu l'obscène au risque du procédé. Et tout ça au service de ce que recherche vraiment cette poésie à donner à ses lecteurs, savoir l'émotion forte, quoi. Et plus elle est forte, plus ça marche, et plus ça va chercher dans le noir, le douloureux,
le trivial.
Plus peut-être l'objectif est atteint. Et donc j'ai quelques méfiances à l'égard de ça aujourd'hui. Mais là, je dois dire que je trouve que ça marche, c'est-à-dire que ce réinvestissement de la forme du sonnet dont vous avez parlé, qui est ancien en poésie américaine, hein, c'est le 19e siècle qui voit vraiment s'épanouir le recours à cette forme. Alors le lecteur français est un peu désarçonné, parce que c'est pas des sonnets avec deux quatrains, deux tercets, c'est 11 vers qui se suivent. Le choix de cette forme finalement canalise ou dompte, plus ou moins selon les poèmes, mais ce que vous avez bien évoqué comme un flux qu'on ressent très nettement. Et on retrouve ce qui me semble est la grande force de la poésie américaine, à savoir le souffle, l'énergie vitale, le motif de l'errance, son errance à elle à travers le pays, son errance intérieure à travers ce cheminement compliqué. Et de ce point de vue-là, ça fonctionne, je trouve.
Sarah Almatari, est-ce que vous étiez déjà aussi comme Anne Dugin à vous dire non, encore une poétesse qui va nous parler de ses traumas et que vous avez été finalement agréablement surprise?
Pas nécessairement, mais j'ai été emportée. Effectivement, c'est difficile de ne pas être admirative de ce que nous propose l'autrice, mais je reconnais que même si le recueil est traversé de fulgurances, il y a aussi des facilités et je les déplore comme l'a fait Anne. Alors, finalement, la forme du sonnet, c'est un peu un prétexte, puisque on a des séquences de 14 vers qui, dans la version américaine, sont numérotés et sont typographiquement bien distincts du reste par bloc, en fait, alors que dans la version française, ils tiennent sur une page et c'est le choix qu'a fait l'éditeur. Alors, c'est toujours difficile pour nous de lire en version traduite une poésie originale, qui est une poésie ici non rimée, mais on est quand même saisi par ce rythme, par ce flow, par ce flux. C'est presque un flow au sens du rap, puisque le texte est très, très oralisé, avec des éléments aussi d'argot par moment. Les seuls vers qui sont véritablement insérés, ce sont des extraits de chansons, par exemple de chansons country, ou des vers qu'on doit au fils de l'autrice et qu'elle introduit pour donner une impression de polyphonie. Et là, la grosse référence, à mon avis, c'est le flux de conscience. C'est tous ces auteurs dont elle se réclame, qui sont Virginia Woolf, qui sont Faulkner et Joyce.
Elle
en parle beaucoup parce que c'est visiblement un des auteurs préférés de sa mère, qui est un personnage assez fantomatique dans le recueil, mais extraordinaire, qui reprend des études. Alors, il faut dire que l'Amérique qui nous est décrite, en fait, c'est une Amérique blanche, essentiellement, même si l'esclavage est évoqué comme une malédiction qui pèserait et qui expliquerait d'une certaine manière l'état déplorable. L'autrice écrit « Pas étonnant que depuis, tout empeste la plèbe et la pelle ». Et la peine. Donc ce trauma, en fait, originel, le trauma originel matriciel, c'est peut-être celui-là, et aussi le puritanisme. Mais je me pose la question, moi aussi, du déplacement du trauma, parce que c'est une écriture qui est destroy, d'accord, avec des facilités, parce que franchement, le pipi, le caca, ça fait longtemps que ça n'est plus transgressif en poésie. De la même manière que moi, les passages sur le Christ, qui sont légèrement blasphématoires, m'ont pas du tout impressionné et touché. Il y a en permanence, en fait, une tension, il me semble, dans le livre, entre l'antilyrisme revendiqué, par exemple, on va nous décrire très souvent la miction, hein, ça fait très souvent pipi. Et un art du contraste, donc c'est les caramels et le crottin. Alors, pour le coup, elle déteste les deux odeurs, mais elle joue beaucoup cet art du contraste qui donne du rythme, mais qui est un peu facile, en fait, dans la récurrence. Et en même temps, une tentation du lyrisme. Et c'est là où, il me semble, elle cherche une réparation du trauma, parce que finalement, elle nous parle beaucoup de la beauté. Il y a une quête de ce qu'elle appelle le sublime et il y a un côté méta de réflexion sur la poésie qui, moi, m'a un peu déplu. Parce que quand on est une poétesse de cette envergure-là, parce qu'elle est quand même extraordinaire, il faut le dire, elle en est à son 6e recueil, on n'a pas besoin, me semble-t-il, de repasser par cette expérience méta, la poésie qui parle de la poésie, enfin, de manière très explicite.
Est-ce que vous êtes d'accord, Anne Dugin, sur ce qui a été dit sur cette questionnement de Sarah Al-Matari sur le dépassement, en fait, enfin, cette position entre deux, entre la recherche du lyrisme, hein, c'est vrai qu'elle le dit dès le premier poème où elle cite donc ce poète Frank O'Hara, qui est un poète donc du XXe siècle, de l'école de New York, une école d'avant-garde, voilà, qui mêlait plusieurs arts. Et effectivement, elle dit, je cherche un petit peu de beauté et de soulagement sans repos. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé qu'elle alternait entre ce trivial un peu facile, on va le dire, et cette recherche de lyrisme, mais que ça donnait des poèmes un petit peu parfois bancals?
Alors, en réalité, je pense que là, on met le doigt sur quelque chose qui me paraît important pour qualifier toute cette veine de la poésie américaine contemporaine et qui essaime, hein, qui a plein d'échos jusque chez nous. On a discuté à ce micro de plusieurs recueils qui me paraissent tout à fait dans cette veine-là, qui pour moi relève d'un grand malentendu sur le lyrisme. C'est-à-dire que, effectivement, ce sont des recueils qui recherchent le trivial, l'enracinement dans le quotidien, qui sont pas du tout dans une vision sublimatoire ou décroché de la poésie, ce qu'on associe souvent au lyrisme. En réalité, dans la recherche de leur thème, dans ce que ces poèmes creusent, ils sont mais terriblement lyriques. C'est-à-dire que ce sont vraiment les préoccupations lyriques, mais alors de base de la poésie, l'amour, la mort, la beauté et la poésie dans tout ça, et je contemple la mer, etc., etc. Et on fait pipi au milieu et on est avec des drogués et on est dans New York, etc. Et donc, sous couvert finalement d'un cadre et d'un matériau biographique, il est vrai très fort, il est vrai original, entre guillemets, dont on se dit spontanément qu'il n'a pas sa place dans un cliché qu'on se fait de la poésie, que c'est les fleurs, les petits oiseaux, etc. C'est pas du tout ça, mais le fond est incroyablement lyrique. Et pour moi, si tension il y a, c'est plutôt entre cette tentation de l'épanchement qui est complètement lyrique, et le fait que quand même, par moment et à répétition, elle se reprend. Elle le dit à un moment dans un poème où là, elle est un peu dans le métadiscours sur la poésie. Ben, il faut qu'il y ait une forme. Il faut dompter tout ça. Elle évoque à un moment le piège de la littérature, c'est la fiction. Celui de la poésie, c'est la forme, c'est-à-dire que c'est le moyen, il faut en passer par là pour donner forme à ce qu'on a à dire, et en même temps, voilà, il faut pas s'y perdre, il faut pas en rester prisonnier, il faut rester proche de ce qu'on a à dire, en propre. Donc là, pour moi, en fait, il n'y a pas d'opposition entre
lyrisme et trivialité.
Ah non, mais pas du tout. Au risque que la seconde, la trivialité, serve de prétexte à un lyrisme qui se pose pas beaucoup de questions, en fait.
Bah, alors, c'est la question que j'allais vous poser, finalement. Vous dites, Sarah Al-Matari, que c'est une poétesse géniale. Qu'est-ce qui est génial si, quand elle se pose des questions sur la poésie, ça vous déplaît? Et effectivement, ben, on pourrait se dire qu'elle refuse le lyrisme, en fait, elle y est en plein dedans et qu'elle va saupoudrer ça de pipi et de vomi pour peut-être se donner bonne conscience. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fait que c'est quand même des poèmes par lesquels on est emporté au-delà même de sa vie, en fait?
C'est la variété des formulations. C'est la variété des formulations et c'est le rythme qu'elle parvient à créer malgré tout ça. Moi, j'ai trouvé que le recueil était un peu lesté de références pour moi, quand elle nous parle de Moby Dick, etc. Again, Moby Dick.
Comme Joyce, hein, again.
Comme Joyce. Alors, elle fait une chose qui peut paraître un peu facile, c'est qu'elle alterne références classiques et références pop, et références d'avant-garde, références grand public. Donc, il est question de Frank O'Hara, dont vous avez parlé, mais il est aussi question de Queen et d'un autre Frankie et de bien d'autres. Et ce qui m'a semblé plus intéressant, c'est que finalement, elle aurait pu épurer un petit peu le recueil d'un certain nombre de références pour ne garder que les références aux contes de filles, qui peuvent paraître aussi très, très attendues. Mais ça m'a semblé intéressant parce que finalement, le recueil nous dit que la vie n'est pas un conte de fées, mais que par le langage, on peut essayer de transformer le pipi, le caca, la drogue, la maladie, je ne sais pas si en or, mais en tout cas en féerie. Parce qu'elle n'est pas non plus complètement malheureuse. Elle nous le dit, sa vie n'a pas été la pire des vies. Et puis, il y a des moments en fait, de suspens. Par exemple, quand elle se retrouve dans la cave d'un ou d'une nommée Babe, qui a une sorte de petit atelier de polissage de pierre. Alors, il fait froid et tout ça, on n'y est pas très bien, c'est exigu. Mais elle a une sorte de moment de bonheur et de repos. Et j'ai aimé aussi, quand elle nous décrit son enfance, ce qu'elle dit de son premier souvenir, qui serait ce lit avec les décalcomanies d'enfants. Et elle s'invente des histoires avec ces décalcomanies. Et en fait, c'est tout à fait ça, le recueil, en fait. C'est une manière d'aller puiser dans le souvenir pour s'inventer des histoires et pour essayer de lutter contre le trauma. Et à mon avis, ce qui sauve le semble, c'est l'humour. Moi, c'est ce que c'est là où elle est quand même très forte. C'est-à-dire que elle est presque consciente de ses facilités. Et d'ailleurs, elle se moque parfois d'elle-même. Et la dérision n'est jamais une mauvaise chose quand elle dit je digresse. Oui, c'est un recueil qui a saut et à gambade où elle joue beaucoup sur ce coq à l'âne parce que finalement, ce sont les mêmes thématiques et Anne Dujin les a énumérées qui sont énumérées, qui reviennent en permanence. À différents moments, elle nous évoque la maladie de son père. À différents moments, elle nous évoque le suicide. À différents moments, elle nous évoque les avortements. Et donc, elle joue un peu avec ça. Et grâce à l'humour, dans les souvenirs qui s'entremêlent, elle dépasse le trauma. Par exemple, quand elle évoque les règles de sa chienne non stérilisée, à qui elle avait mis, quand elle était enfant, le bas d'un bikini avec un protège-slip. Ou alors un amant, dont elle dit le silence. Elle parle du silence, elle dit le silence est mon amant. Il ne m'étreint pas quand je me réveille, ou alors il le fait, mais son étreinte est neutre, comme Dieu ou la Suisse depuis 1815.
Moi, j'ai bien aimé aussi le poème sur l'acquisition d'un lave-vaisselle où tout à coup, elle dit « Je me retrouve avec beaucoup de temps. Je ne savais que faire de ce temps et avec des mains magnifiques, elle ne savait qu'en faire non plus. » Vous, Anne Dujin, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a de l'humour dans ce recueil et qu'effectivement, on aurait pu se passer peut-être, il y a 127 poèmes, il y a un côté quand même assez répétitif, usant entre le flux de mémoire, mais aussi l'inertie du sonnet, qui semble quand même un peu écrasant. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu être un petit peu allégé, ce recueil ?
Allégé, je ne sais pas. En tout cas, il est tel qu'il est et je me demande ce qui continuerait de fonctionner si on retirait une brique ou l'autre. En revanche, et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, je crois que ce qui fait que ce recueil est réussi et qu'elle est une grande poète, c'est la justesse de son regard. C'est ce regard à la fois tendre et pas complaisant qu'elle a en permanence sur elle, sur les autres. Et comme elle est poète et qu'elle sait manier la langue et qu'elle sait la faire chanter dans un certain rythme, etc., cette justesse trouve sa forme et l'ensemble en devient convaincant. Mais c'est vraiment l'équilibre qu'elle pose et sur sa douleur. Et c'est ce qui fait encore son désir de vivre et sa joie, le tout dans une langue que je peux pas m'empêcher de qualifier de juste.
Franck Sonnet, c'est le prix Pulitzer de la poésie aux éditions Castor Astral et ça a été traduit par Sabine Yuen.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent du recueil de Blandine Merle, Naître et mourir chez Gallimard.
Parce qu'il ne pouvait pas en aller autrement, le deuil, ample au moment du choc, s'est ajusté. Il épouse à présent si pernicieusement les formes de son corps, à travers la robe noire, que lorsqu'elle se regarde dans le miroir, les cheveux tirés, laqués à l'extrême et le visage livide, sa main force le trait rouge des lèvres pour mieux farder l'envie de mourir aussi.
La naissance et la mort, attendre un enfant comme on attend de mourir, prendre la mesure des commencements comme des fins, telle est l'expérience qu'a vécue la poétesse Blandine Merle deux fois et en même temps, et qu'elle a tenté de retranscrire. Son recueil s'ouvre ainsi sur une citation de la philosophe Simone Weil, que je tronque en partie. « L'objet, dit-elle, de la recherche ne doit pas être le surnaturel, mais le monde. » Or quoi de plus mondain, de plus dans le monde, que ce qui nous arrive à tous sans distinction, naître et mourir. À ceci près qu'on les oppose, alors qu'ils sont si proches. Cette identité est stupéfiante, nous dit Blandine Merle, et chacun de ses poèmes le révèle en mots, comme la pièce d'un puzzle qu'on appellerait la vie. C'est donc un recueil qu'il faut lire de bout en bout, comme on vit sa vie, du début à la fin. Qu'en avez-vous pensé, Sarah Almatari ?
C'est un recueil qui est caractérisé par sa subtilité et par sa sagesse. Il a une vraie architecture, avec sa chronologie et même sa géographie, qui est ciselée comme la dentelle des brodeuses qui sont au centre du recueil. Et j'étais particulièrement intéressée par cette figure de la brodeuse, qui est une figure féminine importante, comme l'a montré jadis l'anthropologue Yvonne Verdier. La brodeuse, ici, c'est aussi la poète qui tisse le texte en 6 sections de pièces non versifiées, et qui sont composées selon différents schémas. Et ça renvoie au travail de la toile et aux 3 principales références de l'ouvrage. La toile à broder, la toile du peintre, puisque sont essentiellement présentées des scènes ou des tableaux, et la toile de cinéma. Et le tout forme un tout cohérent, même si le recueil est sous-titré « poème » au pluriel. On a finalement une sorte de long poème, un livre de femmes sur les femmes, qui est chapeauté par ce titre « Naître et mourir ». Et il faut dire un mot de la conjonction « et » ici, qui peut être interprétée somme qu'en renvoyant à 2 temporalités parallèles, des individus s'éteignent à l'heure où d'autres viennent au monde, soit on peut lui donner aussi une valeur finale. Naître pour mourir. Et là, ce serait considéré que le recueil est un livre sur la finitude qui est le propre de l'être humain. Il y a aussi une réminiscence ici à l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Et naissance et mort apparaissent dans le livre comme 2 révolutions. Mais il faut prendre révolution non pas au sens politique, mais au sens presque de... sidéral, puisque la naissance et la mort sont 2 événements qui nous sont présentés comme sidérants. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on trouve un certain nombre de références à Galilée, à un poème s'intitule Révolution copernicienne. Il y a une très belle pièce aussi où l'autrice découvre son reflet dans le miroir alors qu'elle est enceinte et elle se trouve étrangère comme une orange. Et on a ce segment, oui, la terre et ronde à la chute du poème. C'est assez beau parce que ça renvoie en fait discrètement à la fois au célèbre poème d'Éluard, La terre est bleue comme une orange, et à ces révolutions dont je parlais que sont la vie et la mort.
Anne Dugin, qu'en avez-vous pensé ? On est sur un tout autre genre par rapport à Diane Sousse, on est beaucoup plus dans l'économie.
Oui, tout à fait. Et alors, c'est étrange parce que c'est du vers libre. Donc, on n'est pas là sur une forme canonique réinvestie comme le recueil dont on parlait tout à l'heure. Et pourtant, c'est encore beaucoup plus retenu. Et j'avoue que j'aime bien cela. Alors, moi, j'ai trouvé que ce pari qu'elle fait de lier naissance et mort est très réussi. En fait, le pari qu'elle fait, il me semble, c'est de faire en sorte que ces 2 événements prennent sens toujours l'un par rapport à l'autre. Et le résultat, c'est que la mort se trouve teintée de douceur, peut-être trop, diront certains. Il y a quelque chose de très doux dans cette mort dont elle nous parle. Mais à l'inverse, la naissance prend des reflets douloureux.
C'est une sorte d'infraction, d'ailleurs, c'est le titre de la première partie.
Alors, cette première partie, justement, je la trouve très spécifique dans l'économie du recueil, très mystérieuse, très trouble. Et en fait, où il y est question de fait de sexualité, selon le motif de l'intrusion. Il y a quelque chose d'un tout petit peu angoissant dans ce qui est vécu là, et qui faisait écho, d'ailleurs, à son premier recueil, qui s'appelle Parobol, et qui était paru chez Chêne, et qui avait reçu le prix de la vocation Chêne.
C'était en 2011.
Voilà, et ce même motif était présent là. Et je pense qu'elle n'a pas complètement fini d'explorer cette dimension, parce que ce qui m'a frappé dans le recueil, c'est que quand on passe à la section brodeuse, voilà, la vie est présente dans le corps, elle va rentrer en gestation, le changement de ton, d'atmosphère est total. C'est-à-dire qu'on passe de cette ambiance trouble, un petit peu inquiétante, des vers beaucoup plus nets, un chant qui sonne sec comme ça, à quelque chose de tendre, de rond, de doux qui va persister tout au long. J'étais un peu frappée par ce contraste. Je me dis que le trouble initial aurait pu persister davantage tout au long du recueil, mais moi je me suis tout à fait emportée par cette retenue, justement cette retenue, cette précision de la langue que je trouve soutenue tout le long par une tendresse du regard, alors qui sent mauvais jeu de mots sur le ventre rond de la femme enceinte, qui arrondit l'ensemble. Et qui, je trouve que c'est un texte, à la différence du premier, qui prend soin de son lecteur, en fait.
Il n'y a pas de trivialité.
Et ça, j'y suis sensible. Et ça, moi, j'y suis toujours sensible. Et juste un mot sur la composition générale. Blandine Merle, et c'était le cas dans son premier recueil, elle fait des livres. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin. Mmh. Et il faut vraiment lire les poèmes dans l'ordre. Et la notion de recueil qui caractérise souvent le poème, le recueil de poèmes, a quelque chose d'inexact ici, parce que l'ensemble est vraiment tissé, pour reprendre l'image de la prodeuse. Mais il y a des motifs qui s'échappent de la trame. Un très beau poème sur les migrants, un très beau poème sur Pâques, un très beau poème des coins sur une table, sur une nature morte, qui font que voilà, le motif néanmoins bouge. On n'est pas pris dans un tunnel qui nous emmène de la naissance à la mort et aller-retour. Quoi.
Oui, c'est pas du tout chronologique. Et moi, j'avais peur en ouvrant le recueil de me dire, ok, je vais avoir des poèmes qui assument une forme de lyrisme et qui vont aller sur deux sujets extrêmement forts et prenants, à savoir la naissance et la mort. Et c'est vrai que cette première partie nous déroute complètement. Moi, je me suis dit, quel est le rapport ? En plus, j'ai fait une terrible erreur, c'est que j'ai lu une interview d'elle avant de lire le recueil. Terrible erreur à ne pas faire. Et donc, j'avais presque trop d'explicitations. Je me disais, je vais avoir des beaux poèmes sur la mort et la naissance, sur la maternité et la mort d'un proche. Et pas du tout. Cette première partie m'a complètement désorientée. Ça vous a fait le même effet, vous,
oui, Sarah Mataré ? Je partage votre analyse. On est même à la limite de l'hermétisme à certains moments dans les premiers poèmes, avec cet usage du tiré long. Il y a une aura de mystère qui est celle qui entoure la vie et la mort. Dans le premier poème, alors je crois qu'elle ne commence pas par évoquer l'avant-grossesse, mais qu'elle commence par évoquer la mort en fait dans un institut de soins palliatifs, avec cette baignoire thérapeutique qui pourrait en être le signe, et une image absolument sinistre d'une personne dont on ne sait pas si elle est morte ou vive, si elle a les cheveux noirs ou pas. Le deuxième poème est aussi très énigmatique. On est avant la grossesse. Je me suis demandé à quoi ça pouvait faire allusion. J'ai pas trouvé, mais c'est peut-être pas.
On bute un peu parfois, c'est vrai, en se disant de quoi il est question.
Mais la poésie, c'est ça. On n'a pas non plus à chercher à expliciter à toute force. Alors je me suis dit, c'est peut-être une évocation des ampoules de vitamine D ou de stimulation préovarienne.
D'acide folique.
Voilà, je sais pas. Alors moi, je dirais pas que le recueil est complètement dans le soin. Il a une brutalité aussi, mais hors de toute trivialité. Bon, pour moi, c'est un peu trop sage. Je dirais que contrairement à Diane Seuss, qui disait oui, j'étais une racaille. Bon, là, on a affaire à une femme poète qui n'est pas du tout une racaille. Je me suis un petit peu lassée, même si je comprends l'importance anthropologique des mythes, vu ce qui nous est raconté, des références à la Bible, des références à la peinture, Fra Angelico, l'Annonciation, la Visitation, etc. Des références à l'Odyssée. Là, pour le coup, on sent un peu le côté prof de français. Ça m'a.
Ouais, elle est prof de français, effectivement.
Un peu déplu, mais moi aussi, donc je reconnais mes propres travers, si vous voulez. Mais par contre, ce que j'ai apprécié, c'est la manière dont elle remet les grands thèmes, comme le carpe diem, les vanités au goût du jour, en les insérant dans du quotidien. Par exemple, quand l'ange Gabriel de l'Annonciation est remplacé par un test de grossesse clear blue, avec ses petites bandelettes roses et bleues, ou quand elle nous raconte les courses juste avant que le supermarché ne ferme, et l'urgence de vivre, finalement. Ça m'a plu beaucoup plus que quand elle est dans l'exphrasis, c'est-à-dire dans la description de tableaux ou de livres.
Et alors, une question aussi, Anne Dujan, parce qu'on a parlé du fait que, comme dans le premier recueil, il y avait un peu des inserts méta sur sa manière de composer, son rapport au poème. Là aussi, on a un poème, c'est page 103. Elle commence comme ça. « Les mots se bousculent au portillon. Tous veulent une place, participer. Tu les prends par ordre d'arrivée pour ne pas les vexer, ni les voir repartir tout penaud. » Là aussi, on a quelque chose sur la poésie. Et pourquoi là, ça vous plaît peut-être plus que chez Diane Seuss ?
C'est typiquement un poème d'art poétique, et c'est rare qu'il n'y en ait pas dans un recueil. Après, on peut discuter de leur nécessité. Mais ce qui me plaît, et ce que je crois qu'elle a réussi là, c'est le pari de parler de la vie et de la mort, donc les grands thèmes lyriques, on y revient, mais de le faire avec une forme de critique, et ce qu'on appelle le lyrisme critique, c'est-à-dire une retenue qui va à l'encontre du risque de l'épanchement. Et c'est là que je la trouve convaincante.
Blandine Merle, Naître et mourir, c'est aux éditions Gallimard. Merci à toutes les deux, Sarah Almatari, Anne Dujan. Anne Dujan, je précise qu'on peut vous lire dans la revue Esprit, mais que dès jeudi, on pourra aussi découvrir vos poèmes, puisque paraît votre recueil Noyau manquant aux éditions Gallimard. Félicitations, on va le lire. Bravo. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.